Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth Boivin, après l'émission de l'homme et les plantes, si vous le voulez bien, continuons à explorer avec passion le domaine des herbes. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour complètement.
Non, il y a beaucoup de choses à dire sur les plantes, bien évidemment, Tita. Mais on peut peut-être se concentrer aujourd'hui plus sur la cueillette des plantes. Parce qu'en fait, voilà.
On ne cueille pas n'importe quand et n'importe comment,
voilà,
c'est cela ?
Voilà, c'est ça. La cueillette ne porte pas seulement sur le lien symbolique qui unit la plante à son milieu. La cueillette, en fait, pour être efficace, doit respecter le rythme naturel des végétaux. D'où l'importance des saisons, des heures, du jour et de l'organe récolté. Alors, on cueille les plantes par temps sec ou après la dissipation de la rosée, afin d'éviter qu'elles ne se brûlent, qu'elles soient trop... Quand il y a de l'eau, de la rosée, si elle est mouillée, elle va mal sécher. Donc, on fait ça pour éviter qu'elle ne brûle et surtout afin de favoriser sa dessiccation, c'est-à-dire la manière dont on va la
mettre en poudre en quelques jours.
Les racines et rhizomes doivent être arrachés à la tombée du jour lorsque les principes actifs ont quitté la partie aérienne du végétal pour se régénérer dans sa partie souterraine. C'est intéressant, ça. Hein?
C'est intéressant. Et puis, ça me fait penser justement aux personnes qui, la nuit, se promenaient et allaient tirer ses racines. Et ça me fait penser aux sorcières.
Et voilà. Effectivement, quand on est enfant, on nous raconte, on nous fait peur avec des histoires de sorcières et on pense que, eh bien, les sorcières, c'est comme les farfadets, ça n'existe pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a quand même quelque chose, c'est pas tout à fait faux, mais il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est-à-dire que justement, par rapport à cette cueillette des plantes, de la racine, la nuit, quand on voulait utiliser la racine d'une plante, effectivement, il valait mieux l'accueillir la nuit parce que le principe actif de la plante était dans sa partie souterraine. Et donc, eh bien, certaines femmes dans les villages, il y avait des femmes qui avaient des pouvoirs ou qui savaient soigner par des onguents ou des préparations. Eh bien, ces personnes, elles sortaient le soir tombé, elles allaient dans les prés ou dans les orées de bois, enfin pour trouver ces fameuses plantes. Et donc, du coup, ces sorties nocturnes, eh bien, on disait, ben, c'est un peu sorcier tout ça, quoi. Et donc, effectivement, on a pu les assimiler à des sorcières, voilà. Et les plantes sauvages doivent être récoltées dans des lieux peu fréquentés pour éviter la pollution. C'est surtout très, très... très important à l'heure actuelle où on a toutes sortes de pollutions qui vont même parfois dans des endroits naturels qui ont de l'urbanisation pas très loin, quoi. Et seules les plantes parfaitement saines, sans taches suspectes et parasites, peuvent être ramassées. Donc on voit qu'il y a une vraie science de la cueillette. Et aujourd'hui, il y a des plantes médicinales qui viennent de l'étranger. Il y a des gens qui se sont reconvertis, des agriculteurs qui se sont reconvertis dans la culture de plantes médicinales. Donc là, elles sont bien repérées dans des champs cultivés. C'est autre chose. Mais ça répond à une compétence très particulière pour cultiver ces plantes. Et il ne faut pas non plus procéder à un arrachat systématique parce qu'il faut penser au renouvellement du sol et de la plante pour garder des milieux assez naturels. Voilà. Alors, le calendrier de cueillette recherche les organes de la plante les plus richement pourvus en principe actif, on l'a compris, suivant des cycles végétatifs. Et on prélève de préférence l'écorce en hiver, les bourgeons et certaines racines au printemps, les feuilles en début d'été, les fleurs au solstice d'été et les racines et les baies à l'arrière-saison.
Et tout ça, ça a à voir avec la sève, j'imagine, comme l'écorce en hiver, vous m'avez dit.
Oui.
La sève descend, oui. Donc, et puis, au contraire, pour les bourgeons, ça, oui. La sève est plus présente.
Est plus présente. D'accord. Et ça a même des indications tout à fait... Qui concerne un domaine que l'on connaît bien toutes les deux, le pisé. Et on disait qu'autrefois, on construisait des maisons en pisé quand les feuilles des arbres, les sommitales, étaient très vertes, ce qui signifiait que le terrain était dégraissé et que la sève était dans la végétation montante et que, du coup, le terrain avait l'humidité idoine pour faire du pisé, voilà. Donc, c'est très important de voir que il y a une observation de la nature. D'ailleurs, nos anciens étaient très en phase avec leur environnement et ils maîtrisaient tout ça presque, j'allais dire, d'une manière naturelle. Ils savaient très précisément à quel moment on allait chercher les choses. Ça se transmettait oralement. Et puis, il y a toujours cette armoire aux herbes qu'on connaissait et qui faisait qu'on avait toujours certaines plantes dans cette armoire pour soigner. Alors, évidemment, peut-être pas les gros problèmes médicaux, mais des petits problèmes, des piqûres d'insectes, des morsures, ce genre de choses.
Les petits bobos qui peuvent survenir quotidiennement.
Alors,
ça, c'était la cueillette.
Et on va voir, une fois qu'on a cueilli les plantes, eh bien, après, il y a différentes sortes de préparations. Alors, on a celle que l'on connaît le mieux, c'est...
L'infusion,
c'est
vrai.
Oh. Oui, c'est ça. Où l'eau bouillante est versée sur les herbes, ou bien celles-ci sont jetées dans l'eau bouillante et laissées un court instant, quelques minutes, un quart d'heure à couvert. Ça, c'est de l'infusion.
Donc ça ne, l'herbe ne boue pas avec l'eau. Donc on met uniquement l'eau bouillante sur sur la plante.
Oui.
Voilà.
La macération.
Ah.
Donc là, les herbes sont séchées et pulvérisées, sont mises à froid en contact avec un liquide.
D'accord.
Ça peut être de l'eau, ça peut être du vin, ça peut être de l'huile. Et le temps de macération varie selon les plantes, de quelques heures à quelques jours. Et ces préparations ne se conservent pas en général. Donc ça peut servir à il y a différents usages, soit culinaires, soit même
des onguents particuliers.
Voilà, par exemple des onguents aussi, effectivement. On utilisait beaucoup le système de l'onguent. Ça peut être un lavement. Alors ça, c'est l'injection d'un liquide froid ou chaud à base d'une décoction de plantes laxative ou purgative. Parce qu'évidemment, avec les alimentations très grasses, il y avait souvent des problèmes de ce type. Et le lavement était vraiment une pratique assez courante qui permettait effectivement de dégager les intestins. On a aussi la décoction, dont l'eau froide dans laquelle sont jetées les herbes séchées est lentement portée à ébullition pendant 10 à 30 minutes. C'est le mode de préparation le plus souvent indiqué pour l'emploi des organes durs des plantes, les cornes, l'écorce et les racines.
Voilà. D'accord. Et il faut jusqu'à 30 minutes.
Oui,
ébullition. C'est énorme.
Ah, oui. Mais bon, c'est costaud aussi, une écorce et les racines.
Oui.
On a une autre préparation qui est l'emplâtre.
Ah.
C'est un onguent, on en parlait. Onguent, c'est mieux qu'emplâtre, mais bon. Onguent composé de plantes et d'un corps gras. Alors, huile ou graisse étendue sur un linge et appliquée sur les parties malades. Ça, c'est pour les brûlures aussi. Il y avait la farine de moutarde, il y avait ce genre de choses. On faisait des sortes de en plâtre aussi, on dit cataplasme aussi, hein, c'était le terme. Et le cataplasme arrive. Ah ben non, le cataplasme arrive. Préparation à consistance de bouillie épaisse où la base farine ou poudre se trouve mélangée à un excipient. Le lait ou l'eau est réparti entre deux linges fins. Voilà, ça c'était les cataplasmes. Alors, quand le cataplasme était chaud, c'était pas toujours facile à supporter, mais bon, voilà. Donc ça, c'est différents types de préparations qui peuvent se faire avec des plantes.
FM 97.1 dans Suivez le guide avec Elisabeth Boivin. Nous venons d'entendre à nouveau de l'album Motetten de Georg Philipp Telemann. Nous venons d'entendre Das ist mein Freud. Et par la chorale de chambre de Magdebourg. Je voulais vous juste une petite parenthèse. Le motet, c'est une forme musicale vocale a cappella ou accompagnée qui apparaît vers les 12e ou 13e siècles. Et dans la polyphonie à deux voix de cette époque, il y avait une voix de teneur qui chantait en général des valeurs longues et une voix d'organum évoluée avec une certaine liberté pour enrichir l'architectonique. Voilà, c'est pour ce choix. Elisabeth, nous sommes toujours dans ces plantes. Peut-on avoir quelques exemples pour voir à quoi servent ces plantes, ce que l'on peut en faire? Parce que je retiens toujours qu'une plante peut être utilisée effectivement pour plusieurs raisons. Vous l'avez dit tout à l'heure, médicinale, alimentation...
Technique.
Et technique, je vous demanderai ce que c'est que technique, mais ce qu'on entend par technique. Mais pour l'alimentation, on ne peut pas mettre le trop peut nuire si on met trop de oui. plantes, n'est-ce pas?
Oui, alors étudier les plantes, c'est très très intéressant. Rien que pour faire ces émissions, moi, je me régale. C'est vrai que lorsque je travaillais à l'Écomusée, on avait fait une grande exposition sur l'alchimie verte à partir de la thèse de Monique Bollon-Mourier, qui se lit comme un roman. C'est la première fois que je lisais une thèse, mais c'était vraiment passionnant. Et c'est vrai que les plantes, on aurait tendance à et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se soignent par les plantes. Mais aujourd'hui, justement, deux choses sont bien ancrées dans les esprits, à savoir que tout est question de dose dans les plantes. Donc, on ne peut pas se soigner. Enfin, il faut absolument connaître les deux aspects de la plante, parce qu'une plante peut être tout à fait curative et trop en abuser peut tuer.
On ne peut pas être empirique là-dedans.
Non, il faut avoir les conseils de médecins ou de pharmaciens pour l'usage. Souvent, c'est bien précisé dans les emballages, hein, mais c'est toujours bon d'avoir vraiment de respecter, d'avoir une prescription et de respecter vraiment la dose. On n'imagine pas à quel point une plante peut être à la fois peut guérir, oui, et peut même tuer jusqu'à certaines plantes, effectivement. Alors j'ai choisi, alors un choix c'est toujours particulier, mais j'ai essayé de prendre des plantes qui nous parlent. Oui. Et la première, j'ai pris l'absinthe. En fait, l'absinthe, quand je dis l'absinthe, c'est le nom courant. Le nom savant, c'est Artemisia absinthium. Donc elle est aussi connue, encore d'autres noms, grande absinthe, d'armoise amère, herbe au vert, herbe sainte. On a toujours dans ces noms de plantes, on a toujours un aspect parfois religieux, mais ça c'est dans l'histoire des plantes où à un moment, on l'a vu dans une de nos émissions, effectivement, où la religion avait mis une sorte de couvercle sur les plantes en leur donnant des noms, en rétablissant des noms. Donc, il y a la description, vivace, rustique, à feuillage semi-persistant, hauteur 1 mètre, étalement 1 mètre 2, petite particule à fleurs jaunes, insignifiante en été, les feuilles sont d'un vert grisâtre, nombreuses, divisées et aromatiques. L'origine, Asie et Europe. Donc, on est là sur une plante qui peut avoir une origine exotique, a été introduite en Amérique où elle s'est bien développée. Alors, la légende, parce que chaque plante a un petit côté légende. Déjà cultivée au temps de Néfertiti, la plante a un passé riche en légendes. Je n'en citerai qu'une. Selon l'une d'elles, c'est dans les traces laissées par la queue du serpent lorsqu'il s'est enfui du jardin d'Éden que naquit l'absinthe. Donc là encore, référence à la Bible. Et donc, on a ces marqueurs religieux qui suivent la plante tout au long lorsqu'on prend des notes sur ces plantes. Pourquoi ai-je choisi l'absinthe ? Eh bien, parce que cette plante a joué un rôle important dans notre région, puisqu'elle se trouve à la base de nombreux apéritifs ou vins d'herbes. Et Bourgoin-Jallieu comptait plusieurs distilleries, comme celle de Joseph Seignier, par exemple, qui produisait l'arquebuse de Saint-Eudaire à partir d'une macération dans l'alcool d'une trentaine de plantes, dont l'absinthe. Et donc, cette liqueur d'arquebuse était faite au départ pour soigner les blessures dues à l'arquebuse.
D'accord.
Et progressivement, suite à une alchimie verte, comme on l'a appelé dans l'exposition, eh bien, ces liqueurs se sont sucrées, alcoolisées, et se sont devenues des digestifs ou des apéritifs. C'est le cas aussi pour la chartreuse. Et donc, cette absinthe, eh bien, elle a d'ailleurs, on en a entendu parler quand on était étudiant ou à l'école, de Baudelaire, de tous ces poètes ou ces peintres qui, dans le Paris artistique, buvait beaucoup d'absinthe. Et à cette époque-là, elle était distillée avec des bas alcoolats et du coup, elle endommageait le cerveau. Et l'absinthe a été interdite. Elle est revenue un peu... Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, elle s'appelle L'Absente, il y a une marque L'Absente, avec un degré moindre. Voilà. La croyance, il était coutume autrefois d'accrocher des bouquets d'absinthe aux portes pour éloigner les mauvais esprits. Ah, alors, oui. On trouvera toujours les plantes, on les voit quand on est dans des villages alpins, on voit aussi des carlines, des chardons qui sont sur les portes. Tout ça, c'est pour préserver la maison des mauvais sorts. Et l'usage médical, donc l'absinthe, est particulièrement efficace contre les maux d'intestin. Mais l'huile d'absinthe pure est un poison violent. Ah. Voilà, voilà le double... Mmh. L'entre-deux de la plante, quoi.
La contrepartie.
Voilà. Alors, vous posiez la question d'un usage technique. Eh bien, l'absinthe donne de belles teintures jaunes. On peut teindre des tissus avec une absinthe macérée, si je puis dire. Vinaigre des quatre voleurs. Alors là, c'est un antiseptique. Alors là, c'est drôle. C'est les voleurs se passaient un vinaigre à base d'absinthe sur les bras, sur la figure, partout, avant d'aller cambrioler les gens qui étaient atteints de la peste et qui allaient certainement, ou qui étaient morts, ou qui allaient mourir. Et donc, pour être sûr de pas attraper
la peste,
eh bien, il y a que la croyance qui sauve, mais il se mettait tout ce
vinaigre
antiseptique. L'absinthe est antimite aussi.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est bon à savoir. Et chasse insectes, voilà. Donc, on a un petit bouquet de feuilles d'absinthe dans une penderie, ben, peut-être que, voilà, ça fait effet. Voilà pour l'absinthe. La deuxième... que je voulais vous dire, mais je ne sais pas si on a assez de temps.
Oui.
Donc, c'est le laurier. Alors, le laurier, aussi connu sous les noms de laurier d'Apollon, laurier sauce et laurier commun, famille des lauracées. C'est un arbre à feuillage persistant, originaire du sud de l'Europe et qu'on retrouve aujourd'hui partout dans le monde.
Et il ne faut pas que l'on se trompe dans ces différents lauriers, parce qu'il y a les lauriers sauce et puis il y a les lauriers qui, là, à la contrepartie, justement, qui est dangereuse.
Ce qu'on appelle le laurier rose, la Lorraine ou le laurier rose, effectivement, où là, c'est très toxique. Oui. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'en méfier, avec les enfants en particulier, parce que ça décore les terrasses, les jardins, l'été, c'est
partout,
super.
Hein.
Et il faut se méfier de cette plante, effectivement. Alors, le nom français provient du mot latin laurus, qui signifie louange. Et chacun sait que les Grecs et les Romains anciens en couronnaient de lauriers les vainqueurs de combats ou de batailles, et vainqueurs des Olympiades aussi, surtout, et aussi bien que les poètes. Et les mots français lauréat, le baccalauréat, baccalauri, c'est-à-dire fruit du laurier. Voilà d'où viennent le lauréat et le baccalauréat. Pour les Grecs, le laurier était un arbre sacré consacré à Apollon, dieu de la divination, de la poésie et de la guérison. Donc voilà, notez qu'il ne faut pas confondre le laurier noble décrit ici avec le laurier rose. Le laurier rose, qui s'appelle de son nom savant Nerium oleander, petit arbre cultivé pour ses fleurs et dont toutes les parties sont vénéneuses.
D'accord.
Voilà.
Faisons attention.
Et enfin, je terminerai par une plante qui est vraiment, d'abord, rien que le nom, la mandragore.
La mandragore, ça fait exotique.
Oui.
Et en même temps, animal.
Voilà, appelée aussi main de gloire, pomme d'amour ou herbe de Circé, famille des solanacées. La mandragore est originaire du bassin méditerranéen. Elle possède une aura de mystère et de magie.
Oui.
Oui. On raconte que 2 siècles avant Jésus-Christ, les Carthaginois réussirent à berner et neutraliser les Romains et ainsi sauver leur ville en leur offrant du vin mêlé de jus de mandragore. Elle a utilisée par les sorcières pour rendre les femmes stériles fécondes. Elle est mentionnée dans la Bible où Rachel, la seconde épouse de Jacob, devient fertile après que sa sœur ait trouvé de la mandragore dans un champ. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans des représentations de la Renaissance, on a une représentation où on voit la plante de mandragore, on voit, à cette époque, on pensait que la personne qui arrachait une mandragore, que la mandragore, quand elle était arrachée, poussait un cri qui tuait la personne qui l'arrachait. Pourquoi ? Parce que les racines de la mandragore ont la forme du bas d'un corps, comme s'il y avait deux jambes.
Oui.
Voilà.
Ah, oui,
et
oui.
La théorie des signatures, on associe la forme et donc on pensait on lui donnait les attributs d'une personne. Et donc, comment faire pour cueillir la mandragore ?
Comment faire ?
Eh bien. Les représentations qu'on voit, donc on voit cette mandragore, un chien affamé est attaché à la mandragore et on propose au chien affamé une pitance dans un plat, mais au plus loin que la longe qu'il a. Et donc le chien, pour atteindre l'assiette, puisqu'il a faim et manger, eh bien il va tirer la mandragore. Et donc c'est le chien qui tire la mandragore et ce n'est pas le cueilleur d'herbe.
D'accord.
Donc il n'est pas tué.
Il n'est pas tué.
Voilà.
Ah mais c'est joli.
Oui, c'est moi j'aime.
Peut-être moins pour le chien, mais...
Voilà. Alors, les vertus médicinales, les deux espèces ici décrites ont les mêmes vertus médicinales. Aujourd'hui, on ne l'utilise guère plus qu'en homéopathie contre l'asthme et le rhume. Donc, voilà, mise en garde, toute la plante est vénéneuse. Toute la plante est vénéneuse et ne doit être utilisée que sous contrôle médical. Plante à proscrire lors des grossesses. Voilà.
On a un tout petit peu de temps encore, nous dit Laurent. J'aimerais avoir quelques notions pour la sauge. Il est vrai que je l'ai dans le jardin et je pense.
Alors, Titane.
Oui. Mais il y a plusieurs
sauges. Qui a de la sauge dans son jardin n'a plus besoin de médecin. Voilà, Titane.
D'accord. Mais je me sens déjà terriblement bien.
Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est une plante qui est très utilisée en cuisine, qui est une plante qu'on trouve dans les jardins. En fait, il existe plus de 750 espèces de sauge réparties dans le monde entier. Donc, il y a des plantes annuelles, des plantes bisannuelles, des vivaces, des arbrisseaux. Il s'agit d'un groupe très important. Les Grecs se servaient de sauge pour soigner les ulcères, la phtisie et les morsures de serpents. C'était une herbe sacrée pour les Romains, qu'ils accueillaient selon un rite précis avec un instrument spécial dont le fer était exclu. Ça ne devait pas être un instrument en fer. En effet, la sauge s'altère au contact du fer.
Donc, voilà, même pour les ciseaux.
Voilà. Voilà.
Il faut y penser.
Il devait la récolter en tunique blanche et les pieds propres. Titane, attention,
ça,
et les cérémonies de la cueillette étaient précédées d'offrandes de nourriture. C'est vrai, quand on est dans son jardin, on n'est pas toujours... Donc, voilà.
Non, mais oui, c'est
la sauge avait la réputation d'être excellente pour le cerveau, la raison et la mémoire. On en faisait aussi des gargarismes et des bains de bouche et on l'utilisait comme dentifrice. C'est drôle. De très nombreuses histoires relatent l'engouement des Chinois pour cette herbe. Voilà, ils étaient prêts à la marchander d'ailleurs, cette herbe, pour contre des paquets de soie pour avoir de la sauge. Voilà.
Très bien. Oui, c'est vrai qu'elle apporte une saveur délicieuse et apparemment elle aide à digérer les aliments gras. Et j'aime bien aussi la prendre en infusion. Mais à petite dose, oui, là oui. aussi.
Oui, oui.
Voilà, ben, écoutez, merci
elle
beaucoup.
Elle est très bonne pour le porc et le veau à cuisiner. On rajoute ça quand on fait cuire du porc et du veau, ça donne un parfum.
Bon, bien, on va vous laisser parce que je vais aller me préparer un petit plat après ça. Merci Laurent, merci Elisabeth et à notre prochaine promenade. Merci, au revoir.